www.radio-g.fr. Radio G 101.5 FM. Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous, c'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec Selenora que nous partons ce soir. Un duo atypique venu d'ici et d'ailleurs, c'est Selenora. Un univers indescriptible où les sons, les vibrations nous transportent, nous expatrient dans les mondes imaginaires. Une sensibilité musicale qui fascine et nous relie. Selenora, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et bienvenue dans Résonance.
Merci.
Merci pour l'invitation.
Alors, on vous retrouve ce soir pour parler de votre duo, un duo pas comme les autres, dans lequel on vous retrouve, vous, Elodie, à la voix, au violoncelle, au nickel harpa, à la composition, et vous, Luc, on vous retrouve également à la basse, aux machines et à l'arrangement. Selenora, c'est bien plus qu'une musique, c'est aussi une philosophie, une façon de voir, de penser le monde.
Oui, c'est vrai. Ce projet, il est né un petit peu d'une envie d'arrêter d'accompagner les autres et d'être un peu plus dans la lumière et justement de porter des messages. Ça a été l'occasion de commencer à écrire des textes. C'était vraiment nouveau pour moi. Et notamment des textes forcément qui vont parler des histoires de femmes, de la condition féminine, mais aussi des astres et d'une façon de voir le monde, en effet.
Et on retrouve des instruments originaux, comme la vielle norvégienne.
Oui, alors on a la star un petit peu, c'est le nickel harpa, le ou la nickel harpa. Donc c'est un instrument suédois qui existe depuis le Moyen-Âge en Scandinavie et puis en Allemagne du Nord. Et qui existe toujours en Suède pour accompagner la danse. Et moi, je m'en sers notamment pour faire plein d'autres choses que de la musique suédoise. Et on a aussi le violoncelle, qu'on connaît mieux, hein, qui est de plus en plus présent dans les musiques actuelles, dans la chanson. Celui-là, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a une cinquième corde, une corde aiguë. C'est une chose qui s'est un petit peu perdue de nos jours, qui existait beaucoup à l'époque baroque. Notamment pour jouer les suites, enfin la dernière suite de Bach et puis certaines œuvres, par exemple l'arpège de Schubert. Et j'ai réussi à trouver un luthier qui a bien voulu me faire une version moderne d'un instrument à cinq cordes, ce qui permet de toucher presque la tessiture d'un violon. Donc ça, voilà, ça fait un violoncelle très aigu parfois.
D'accord, et ces instruments, vous êtes allé naturellement vers eux, ou c'est vraiment un choix pour la musique, pour votre groupe?
Alors, moi j'ai des parents musiciens qui m'ont presque forcé à faire de la musique, pour le meilleur et pour le pire. Non, mais je les remercie, mais voilà, quand on a des parents musiciens, c'est difficile d'y échapper. Donc, j'ai pas spécialement choisi le violoncelle, mais par contre, le nickel harpa, c'était vraiment une rencontre, voilà, qui a bouleversé ma vie, parce que quand je l'ai rencontré, j'avais un petit peu laissé la musique pour faire un autre métier, et ça m'a remis dans la musique, ça m'a passionné cet instrument. Et voilà, et du coup, je m'en sers un peu au début beaucoup pour les musiques anciennes, et puis maintenant de plus en plus vers la chanson, les musiques actuelles. Et ces deux instruments m'accompagnent partout, un peu dans tous les styles.
Et Luc, la basse, vous, c'est votre instrument de prédilection, je suppose ?
C'est mon instrument de prédilection, oui, depuis maintenant, une petite trentaine d'années. Voilà. Sauf qu'à la base, voilà, j'ai pas du tout la même culture musicale qu'Élodie. Je viens plutôt de la scène métal à la base, puis ensuite j'ai évolué vers le rock progressif. Voilà, donc les influences un peu, bon, les groupes les plus connus sont Pink Floyd, mais tous les héritiers de Pink Floyd. Voilà, et puis, bon, ben... dans le cadre de Selenora, voilà, c'est beaucoup de... Je joue avec une basse 5 cordes aussi, mais c'est une corde... Alors, en règle générale, les basses 5 cordes ont une corde de si grave. Moi, pour ma part, je joue avec une corde de do, donc une cinquième corde plus aiguë, puisque les violoncelles et basses, voilà, jouent un petit peu dans les mêmes fréquences. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir un petit peu se répartir les parties. Et voilà, lorsque Élodie joue plus dans les graves, que je puisse jouer dans des parties plus aiguës. Et puis aussi, on est deux instruments... mélodique, enfin on pose des grooves, des rythmes, mais on joue pas d'accords. Donc il faut que je puisse aussi jouer quelques accords pour donner la couleur des accords, ce que fait un peu une guitare. Voilà, pouvoir le faire à la basse. Donc c'est pour ça que j'ai une corde aiguë, pour pouvoir jouer un peu plus aiguë que ce que font les bassistes en règle générale. Donc j'ai dû un peu adapter mon jeu. Voilà, c'est dans le cadre de Selenora, on est dans des recherches permanentes de pouvoir vraiment adapter nos instruments à notre musique.
Qui dit recherche dit création, créativité. Vos compositions, qu'est-ce qui vous inspire dans vos compositions ?
Alors, les points de départ sont assez différents. Moi, comme je te disais, je me découvre un peu compositrice depuis pas très longtemps. Donc, je suis parfois partie d'un texte, en faisant la musique après, et aussi l'inverse, c'est-à-dire la musique et après le texte. Et puis on a aussi un autre exemple, c'est on a une chanson qui s'appelle Mulan, et là on a pris un texte existant, c'est un texte chinois du 5e siècle si je dis pas de bêtises. Et là on a construit la musique autour. Donc on a des façons de composer un peu différentes. Souvent moi j'ai une façon de composer très mélodique où ça manque un peu de richesse harmonique, donc c'est là que Luc vient apporter son côté un peu rock, plus guitare avec l'harmonie, avec des changements, des modulations, des choses comme ça. Voilà.
Mais du coup, avec tous ces textes de musique du monde, vous chantez en quelle langue ? Vous adaptez ou vous choisissez une langue ?
Alors oui, on chante en plusieurs langues, ce qui peut parfois surprendre, mais c'est aussi le fruit de beaucoup de voyages et l'impossibilité de choisir un style défini, parce que on aime trop de choses. Donc il y a par exemple une chanson en italien, Luna Maga, parce que l'italien c'est la langue de ma famille, c'est une langue que je trouve élégante et qui est poétique, je pense que personne pourra dire le contraire. Après, il y a une chanson en espagnol pour moi, l'espagnol, c'est aussi on est un peu dans les clichés, mais c'est une langue qui exprime la force, par exemple dans le flamenco. Enfin, c'est des chants très engagés qui ont beaucoup de caractère, qui permet d'exprimer un peu une sorte de colère dans la chanson Paloma. Il y a quelques chansons en français. Il y a du mandarin, donc voilà, dans la chanson Mulan, et je crois que c'est tout.
On espère du suédois bientôt.
Peut-être en suédois, parce que j'apprends le suédois et je m'intéresse à ces chants-là aussi.
Et puis on a des morceaux instrumentaux, parce que voilà, ça aussi.
Beaucoup.
Beaucoup d'instrumentaux aussi.
On essaye de laisser place autant à l'instrument qu'à la voix, on considère que les instruments ont autant de choses à dire qu'une voix, et voilà, on essaye de pas. Mettre plus l'un en valeur que l'autre.
Alors tout à l'heure, vous parliez de voyages. Est-ce qu'il y a des rencontres, des voyages qui vous ont marqué dans votre duo ?
Tu veux répondre ?
Ah bah, en commun, on a forcément l'Inde, hein, avec Elodie.
Oui, on a pas mal voyagé en Inde, donc c'est un pays qu'on affectionne. Oui. On aime beaucoup. On a beaucoup d'admiration pour la musique indienne, oui. Hein, qu'elle soit classique, Bollywood, ou on trouve que c'est des musiciens incroyable, enfin c'est une conception musicale aux antipodes de la nôtre et qui est très inspirante. Donc dans notre musique on met beaucoup de tabla, tempura, on aime bien. Quoi d'autre? L'Espagne. Moi j'ai un petit peu vécu en Espagne, donc voilà.
Bah l'Italie aussi, hein, de toute façon.
Voilà, on a pas mal voyagé en Italie. Moi je suis pas mal allée de mon côté en Turquie, pays du Moyen-Orient. Donc, et puis j'avais aussi étudié cette musique il y a longtemps, donc c'est aussi quelque chose, tout ce qui est mode, les makams orientaux, voilà, sans avoir poussé les connaissances très très loin, c'est dans mes impros, ça revient beaucoup. Voilà, on est beaucoup dans une pensée modale quand même, hein, dans la façon de composer, de créer nos mélodies. Et donc ça, c'est vrai que c'est très musique trad et musique du monde.
Oui, effectivement. Alors, pour revenir à la philosophie de votre groupe, vous faites référence à la lune, c'est ça? Vous êtes des sélénites, c'est ça? Sélénites, pardon.
On est des sélénites.
Vous êtes des sélénites. Ouais. Alors, qu'est-ce que...
Non,
pas des terriens. Non, pas des terriens, pas. Mi-terriens, mi-lunaires, c'est ça, comment on pourrait dire?
C'est ça.
Des extraterrestres, en fait.
Oui. Okay. Voilà, dans le spectacle, c'est le discours qu'on propose, bah, avec beaucoup de dérision et d'humour, évidemment. Mais voilà, on dit aux spectateurs qu'on est des êtres lunaires un peu envoyés en mission pour rétablir une connexion entre terriens et sélénites qui s'est perdue au fil des années et qu'il faut qu'on rétablisse cette communication naturelle. Et que bon, au fil du spectacle, on comprend que sélénite et terrien, bah finalement, on est pareil, quoi.
D'accord. Et cette affection pour la lune, c'est venu comme ça ou c'est vraiment le thème en fait du projet?
Oui, c'est vrai que c'est parti de là. Moi, j'avais envie de construire quelque chose autour de ça. Après, voilà, c'est aussi une attirance que j'ai depuis longtemps. Puis bon, voilà, c'est un astre qui est lié à la féminité. Bon, voilà, ça évoque beaucoup de choses. Et ça m'a aussi amené à découvrir plein de choses sur la Lune, enfin, des faits scientifiques qui m'ont passionnée. Et je me suis dit, ah, ce serait vraiment chouette de pouvoir mêler à la fois tout cet imaginaire qu'on a autour de la Lune, un peu magique, mystique, mais aussi scientifique. J'aime bien, voilà, mêler les deux.
Alors, le nom du groupe, il vient de ça, Sélénite, Sélénora.
Bien sûr, voilà. Sélénora, Sélénée, donc c'est la déesse grecque, une des déesses grecques de la Lune. Donc on est parti de ça, et puis après il fallait trouver quand même un nom qui soit un peu plus original, parce que c'est beaucoup, c'était déjà pris, Sélénée, etc. Donc on s'est dit, ah, pourquoi pas, moi j'aime bien, j'imaginais toujours ce projet avec une couleur or, avec quelque chose de précieux, donc voilà, l'or, mais aussi l'aura. L'aura du musicien ou l'aura mystique.
D'accord. Aussi, il y a une dimension spirituelle alors dans votre musique.
Oui, voilà. On n'appuie pas énormément là-dessus parce qu'on ne veut pas tomber dans des clichés de sorcières, etc. Mais il y a oui, c'est un des aspects que j'aime bien aborder, enfin, qui fait partie, je trouve, de la vie, sans tomber dans l'excès. Voilà, on est tous. Un petit peu porté par des énergies subtiles dont on n'a pas les réponses. Je trouve ça intéressant de s'y frotter sans se dire que la vie est basée là-dessus.
Mais le ressenti est là, en tout cas. On peut se baser sur notre ressenti.
Voilà.
Toujours avec nous et pour vous dans Résonance sur Radio G avec l'ensemble Sélénora.
Ô reine lune, je m'en remets à toi pour éclairer mes pas de souffrance et de tendresse. Sous ton règne, ma chair veille, enfante et saigne. Ombre et lumière de mes rêves éveillés, à travers ta lueur, je peux lire mon destin.
décrirez votre musique en quelques adjectifs?
Onirique, c'est ce qui revient souvent. Mm-hmm. Ah, je te laisse poursuivre. Hein.
Poétique, mais bon, c'est un peu la même chose. Varié.
Élaboré, quand même, au niveau, il y a beaucoup de travail au niveau des arrangements, il y a beaucoup, on passe beaucoup de temps.
Oui, j'ai l'impression, même si c'est pas, comment dire, c'est pas du Rachmaninov, mais ouais. Voilà, il y a un des, c'est pas du tout de la chanson couplet-refrain, ça y a, d'ailleurs, on nous l'avait reproché dans le milieu chanson. Oui. C'est une musique qui peut dérouter parce qu'on a, voilà, on a du mal à trouver notre famille artistique. Il y en a, voilà, ils sont identifiés chansons, c'est très clair. Il y en a, c'est, en fait, on a mis du temps à se dire, oui, on est, en fait, on est finalement notre famille. Et la plus évidente, c'est la musique du monde, même si il y a quelques chansons en français. Au début, on se disait trip-hop, mais en fait, c'est oui. une couleur qui a un tout petit peu sur quelques oui. chansons. Mais voilà, donc vraiment une sorte d'interculturalité. Vraiment une musique qui cherche pas forcément à être étiquetée. Donc pour le meilleur et pour le pire, parce que du coup ça, voilà, certaines personnes ont du mal à identifier ce qu'on fait. Et quand ils viennent au concert, après ils comprennent, parce que voilà, il y a aussi la narration et le propos autour de la lune, voilà, qui vient un petit peu lier toutes ces musiques qui pourraient peut-être, on pourrait peut-être se dire. Quand on a que les pistes, on se dit ah mais on comprend pas forcément le lien. Voilà, le lien est plutôt thématique que musical finalement.
Après, les titres sont assez variés dans les thèmes que vous abordez, je suppose.
Oui, oui, oui. Mais voilà, on essaye aussi de trouver un petit peu plus de lien dans les sons qu'on crée. Après, il y a toujours nos instruments qui finalement font le lien. Mais c'est vrai qu'on se laisse, c'est très libre. Hein. C'est une musique qui est vraiment libre. On se dit pas, bah ça va plaire, et puis on fait ça. Même si des fois, ce serait peut-être plus facile à placer après, mais on se laisse vraiment, voilà, l'âme de l'artiste qui se laisse voguer un petit peu.
Oui, on pense les morceaux comme un set en fait, puisque voilà, l'idée c'est qu'on a plus de 50 minutes de musique et on pense à chaque morceau, la place sur le set, on pense à la narration. Enfin voilà, on essaie vraiment de le voir de manière plus globale. On oui. s'arrête pas aux morceaux. En lui-même, et vraiment à son intégration dans l'ensemble du set, et comment les choses s'articulent. Et donc voilà, c'est comme dans un film, dans une narration, une histoire, bah, les choses elles évoluent, il y a des, voilà, des temps forts, des temps plus calmes, et donc c'est pareil au niveau des ambiances, au niveau des atmosphères, au niveau des thèmes aussi, parce qu'il y a des morceaux quand même avec des thèmes assez lourds, d'autres un peu légers. Enfin voilà, c'est comment on articule tout ça, c'est avoir vraiment une vision d'ensemble. Sur l'ensemble du set, quoi.
Donc on pourrait dire narratif aussi, ouais, narratif. Musique narrative. Ouais. Il y a souvent on nous dit un peu comme un conte. Oui. Voilà.
D'accord. Alors au début vous disiez que vous étiez dans l'accompagnement avant et que maintenant c'était voilà un peu différent. Vous avez toujours été dans la musique ou pas du tout? Même si vous venez voilà d'une famille de musiciens.
Oui, bah j'ai commencé donc très jeune la musique. Après j'ai abandonné pendant très longtemps pour être infirmière. Et puis c'est revenu, la musique est revenue, elle s'est imposée dans ma vie. Et donc j'ai repris des études après à Genève en musique ancienne. C'est parce que c'est voilà, c'est grâce à cette musique ancienne et au Nickel Arpa que je suis revenue dans la musique. Parce que finalement je me suis jamais trop reconnue dans la musique classique. Et c'est vrai que venant du violoncelle, c'est un peu là. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. Et puis c'est une très bonne école, mais qui, enfin, ouais, j'ai mis du temps à comprendre que c'était vraiment pas pour moi. Et donc après, après de nombreuses années, on se dit ah mais ouais, mais en fait, mes instruments me permettent de faire plein d'autres choses. Mais il faut se créer en fait son identité, quoi. Donc c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps.
C'est ça, exactement. Et au final, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre au travers de votre musique?
J'aime bien, entre les morceaux, donner des petits messages presque de développement personnel. Enfin, je suis un petit peu fan de ça. Et d'essayer de... Enfin, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas confiance ou qui n'osent pas réaliser leurs rêves, qui se dévalorisent beaucoup. Et j'espère, dans certaines chansons... des fois dire aux gens mais réalisez vos rêves, ça peut paraître naïf hein, comme ça, mais Moi, c'était en tout cas par ce projet, j'ai réussi à me réaliser et à assumer le côté... enfin, à la base, je voulais faire un seul en scène. Heureusement, Luc est venu après avec moi. Mais de dire, bah voilà, j'assume, j'ai ça à dire, ça à jouer, je le délivre au monde. Alors que jamais avant, je me serais permis, voilà, comme je vous disais, je me contentais d'être accompagnatrice et ça m'allait bien d'être dans l'ombre. Donc voilà, presque une mise en lumière. Et je me dis, bah, si ça peut inspirer à d'autres personnes d'être dans la lumière d'une façon ou d'une autre, bah, je serais super contente.
Exactement. Alors ensemble, on va s'écouter un extrait du titre Paloma Roja.
Oui.
Padre, padre, me diste la vida y la muerte. Por la boda vestiré una hoja de sangre. Heridas, lágrimas y risas perdidas. Leyo, leyo, leyo.
Sacré se fait sentir, qu'est-ce que ça signifie
cette chanson? Donc Paloma Roja, ça veut dire la colombe rouge ou la colombe de sang. En fait, j'avais lu il y a longtemps un article sur des filles qui avaient été violées et qu'on a du coup marié de force à l'agresseur, parce qu'en gros elles étaient plus vierges et que plus personne n'en voulait. Et ça m'avait horrifiée, et voilà, du coup c'est le thème de cette chanson. Ça raconte qu'on lui a volé sa vie et qu'elle préfère finalement en finir que de se meurtrir dans sa chair. C'est un petit peu...
Sombre.
Un tout petit peu.
Voilà, si vous êtes dépressif, n'écoutez pas. Non, je plaisante.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment un cri en disant, mais oui, quand est-ce que le monde va changer et qu'on va arrêter ce genre d'horreur. Et donc, dans la chanson, je le dis pas, mais en gros, elle se donne la mort, quoi. Voilà.
En tout cas, une très belle musique. Est-ce qu'il y a un album en vue parmi tout ça?
Ah, on aimerait bien. On sait pas, peut-être pas tout de suite.
Pas tout de suite, Ardia, on est tellement perfectionniste que, enfin, c'est dur de se dire on est prêt, ça y est, à enregistrer, à se dire que les versions actuelles sont, parce qu'en fait, on est sans cesse en train de les faire évoluer, de voilà, d'épurer parfois aussi, parce qu'on joue avec des séquences, et donc au début, on avait mis beaucoup de séquences, puis au fur et à mesure, on les enlève justement pour privilégier le côté organique.
Pour le live.
Pour le live. Donc c'est des morceaux sont sans cesse en transformation, et à un moment donné, faut pouvoir se dire, allez, c'est bon, là, on peut être satisfait de leur forme et être prêt à les enregistrer, mais ça viendra, je pense.
Et puis, il y a aussi la question d'un éventuel troisième musicien.
Oui, voilà.
Qu'on se pose. On se dit, si on se fait un album, est-ce que, au lieu de jouer sur les séquences qu'on a actuellement, qui sont très bien, mais voilà, qui restent des séquences, est-ce qu'on ferait pas plutôt appel à un musicien percussionniste? Donc, faut qu'on trouve la perle rare. Voilà, c'est une question en ce moment qu'on se pose. Il faudrait quelqu'un qui joue pas mal d'instruments du monde, qui maîtrise un peu les machines aussi. Enfin, voilà.
D'accord. En tout cas, un projet voilà, qui évolue.
Ah oui, constamment.
Alors, pour finir, comme vous savez, l'émission s'appelle Résonance. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente?
Moi, Résonance, je pense tout de suite à mon nickel harpa. Parce que c'est un instrument qui a cordes sympathiques. Donc, qui a une résonance vraiment incroyable. Voilà, résonance aussi, l'écho du monde, nos musiques. Est-ce qu'elles résonnent dans les cœurs des autres quand on les joue? On aimerait bien. Et toi, Saint-Esprit?
Mais ce que tu viens de dire, oui.
Ouais.
Oui, oui. Puis c'est vrai, en rentrant en résonance, voilà, comme tu dis, dans le cœur des gens, enfin, souvent, voilà, en musique, beaucoup de personnes se sentent touchées, en tout cas, par les thèmes abordés, puisque voilà, à travers la lune, à travers tout ça, on parle aussi de la femme, de la condition de la femme, de l'état du monde, et c'est vrai que, voilà, en tout cas, ça rentre en résonance pour beaucoup de gens, et on a beaucoup souvent des témoignages après les concerts.
Voilà,
on
aimerait
touchés,
que...
Donc voilà, c'est un peu là.
On aimerait que, là, parce que c'est une musique un peu qu'on appelle musique de niche, un peu, donc c'est sûr que c'est assez intimiste, donc on remplit pas des grandes salles, et on aimerait, voilà, que ça puisse résonner un peu plus, un peu partout. Voilà, ce serait notre souhait.
Eh bien, merci, Selenora, d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve
merci
sur...
à la radio.
On vous retrouve sur vos réseaux. Et un prochain concert, est-ce que vous pouvez nous dire...
Eh bien, on joue aux Abattoirs. Donc, c'est la scène de musique actuelle de Bourgoin-Jallieu, qui est assez connue. Donc, c'est le 16 avril. Le 16 avril, on joue aux Abattoirs. Après, on sera le 30 mai à la médiathèque de Vienne. Autre belle date, le 21 septembre, au Planétarium de Vaux-en-Velin. Ça, c'est un projet qu'on essaye de mener depuis quelques temps, de jouer en Planétarium, parce que ça, je pense que ça peut vraiment être assez canon. Et puis cet été, à la Jasserie du Coq Noir, le 17 juillet. C'est dans le Puy-de-Dôme.
D'accord, très bien. Donc nos auditeurs, s'ils sont par là, ils n'hésiteront pas à venir vous voir. Très bien.
Rhône-Alpes, ouais.
Oui.
Résonance, c'est pour vous et avec nous. De l'élégance, de l'émotion, des vibrations. On vous dit à bientôt.